The first pattern of Afrobeat goes like this.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'espace des anthropologues du vivant. Vous êtes toujours sur Jet FM, à Nantes ou alentour. L'émission du jour nous parle de précarité économique et de migration. Plus précisément, elle évoque les difficultés à vivre dans certains pays et les stratégies mises en place par les humains pour survivre ou pour trouver une vie meilleure. Je vous propose d'écouter deux témoignages. Le premier est celui d'un Nantais qui part régulièrement au Mexique documenter la vie dans les quartiers d'une grande ville, au nord de Mexico. Avec son appareil photo, il suit la vie de jeunes devenus moins jeunes et de leurs enfants. Beaucoup de ceux qu'il rencontre restent au Mexique. Certains décident de le quitter pour une vie meilleure. Lui y va régulièrement pour revoir ceux devenus ses amis, élargir ses points de vue sur le monde et trouver une certaine douceur de vivre qu'il ne trouve pas dans notre pays à l'économie développée. À travers ses paroles, on aperçoit le quotidien de jeunes des bandes, fait de petits boulots, de rivalités, de délits de survie et parfois de violence. Le second témoignage est le récit d'un départ du Mexique, à ce jour définitif, celui si commun d'un jeune villageois mexicain qui décida de migrer vers les États-Unis pour trouver un avenir meilleur et pouvoir en faire profiter sa famille.
Je m'appelle Jean-Félix, je suis photographe, j'ai maintenant 41 ans, j'habite à Nantes et je vais au Mexique depuis que je suis étudiant. Donc j'ai fait mes études à l'université de Nantes, donc ça fait plus de 17 ans maintenant. Et c'est un peu mon premier projet photographique qui est d'aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers populaires de la ville de San Luis Potosí, qui se situe à 400 km au nord de la ville de Mexico. Et donc pendant ces années, j'ai commencé à rencontrer plusieurs bandes dans un quartier où j'ai habité, un peu par hasard. Et puis par la suite, j'ai rencontré d'autres bandes, toujours de cette même ville. Et voilà, maintenant ça fait, on va dire, 17 ans que je travaille sur cette thématique et en suivant les mêmes personnes depuis toutes ces années. Et donc de voir un petit peu l'évolution d'une génération de jeunes qui sont aujourd'hui plus si jeunes, et de voir aussi comment les nouveaux jeunes, donc leurs enfants, se réapproprient le quartier, la rue, et la culture de la rue, et la vie quotidienne aussi qui a pas mal évolué depuis ces années. Notamment en fait avec, ça fait une bonne dizaine d'années que les conditions sécuritaires ont beaucoup été chamboulées du fait de l'explosion de la présence du narcotrafic, enfin, ou de plusieurs groupes criminels, on va dire, dans cette ville-là, mais c'est un peu comme partout dans le pays. C'est des choses qu'on voit pas forcément trop quand on est touriste. Et d'ailleurs, ce travail n'a pas pour but de stigmatiser le pays, mais plutôt de comprendre un peu plus c'est quoi la vie quotidienne dans des quartiers populaires, comme ça pourrait l'être en France, où finalement, on n'en a que des images dans la presse, souvent des images un peu violentes. Et qu'en fait, on ne sait pas du tout quel est le quotidien de ces gens-là, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont arrivés à faire des choses qui peuvent être condamnables, mais des fois, ils n'ont pas forcément le choix, ou pourquoi est-ce que ces choses-là les touchent. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de documenter, d'observer et de retranscrire avec des photographies. J'ai d'abord commencé au tout début, quand j'étais encore étudiant, je m'étais arrêté dans un quartier du centre-ville où j'ai rencontré la bande des Tropilocos. Et un peu par hasard, parce que je voulais photographier des maisons abandonnées, puis il y en a un qui m'a interpellé, qui m'a demandé ce que je faisais, on a discuté, puis il m'a montré d'autres maisons abandonnées, c'est comme ça qu'on a créé du lien. Après, je lui ai montré des photos que j'ai pu faire ailleurs, et puis il a voulu aussi que je photographie. Et un peu plus tard, j'ai ramené mes photos pour leur donner. Et il y en a d'autres qui ont voulu aussi se faire photographier. Et tout ça en y retournant plusieurs fois pendant cette année universitaire, jusqu'à terminer par faire une exposition. et donc a fait un peu de bruit entre guillemets dans la ville, et en y retournant un peu après, un an après, y a ceux du quartier où j'ai habité, en me baladant aussi, en photographiant un peu les immeubles, le quartier, mais bon, en faisant ce que je pouvais, ils m'ont dit « Ah bah tiens, nous aussi, on veut que tu nous photographies ». Donc c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer une première bande dans ce quartier-là de Pavone, puis une deuxième. Et puis petit à petit, j'ai commencé à pouvoir faire tout le tour du quartier, où j'ai pu me rendre compte ou comprendre qu'en fait, les personnes respectaient ce que je faisais et qu'elles n'allaient pas m'agresser parce que je suis allé voir la bande adverse. Mais quand on parle de bande, justement, il n'y a rien de mafieux. C'est vraiment une bande qui a grandi sur une place. Et puis finalement, la place d'à côté, ils sont rivaux parce que il y a eu des histoires de filles, des histoires d'argent, des histoires, enfin des bêtises en fait. Et avec des bastons qui dégénèrent, avec parfois un mort ou un blessé grave. Et donc en fait, il se passe le mot presque de génération en génération, et en fait, c'est pour ça qu'on arrive à des bandes rivales. Mais finalement, c'est des personnes qui sont exactement pareilles, qui ont grandi dans le même milieu social, qui sont dans la même galère. À ne pas confondre du coup avec les cartels, où en fait, ces bandes parfois vont pouvoir ou devoir travailler pour un cartel, donc un groupe criminel, pour vendre de la drogue ou pour faire une activité X ou Y. Ils ont été obligés de vendre cette drogue-là. S'ils ne la vendaient pas, ils se faisaient tuer, ou alors il fallait qu'ils ne vendent plus du tout de drogue. Donc c'était aussi remettre en question pas mal de choses. Donc en fait, pour moi, ces bandes sont plutôt les premières victimes du crime organisé et des cartels. En fait, c'est des jeunes qui sont en galère. Du coup, si on compare à la France, en France, on voit quelque chose de similaire qui peut se produire à moindre échelle, mais c'est qu'en France, on a aussi beaucoup de soutien des pouvoirs publics, des associations qui sont elles-mêmes soutenues par les pouvoirs publics. Et même si c'est pas non plus simple en France, en fait, il existe des choses pour l'éducation, on peut être un peu face à soi-même dans la rue, mais je dirais qu'au Mexique, c'est vraiment un quotidien. Donc en fait, l'éducation se fait dans la rue. Et souvent, dans les milieux populaires, y a aussi des problématiques familiales, une grosse précarité. Et donc, en fait, tous ces jeunes-là sont des proies très faciles pour le crime organisé qui va les recruter et s'en servir de chair à canon, en fait, de passeurs, de tueurs, de dealers, de tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ces jeunes-là qui vont être en première ligne quand il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est des fusillades, des kidnappings qui se terminent souvent tragiquement, en disparition. En fait, on se voit depuis 15 ans. Et donc, en étant plutôt tout seul que si j'étais accompagné, en fait, du coup, si c'est le bon moment ou un concours de circonstances où je croise la personne qui est disponible aussi pour prendre du temps pour discuter, elle pourra me livrer des choses. Des fois, on a pu se perdre de vue pendant quelques années, et puis du coup, elle me raconte ce qui s'est passé. Et comment est-ce qu'elle a vécu, qu'elle a pu passer par des centres de désintoxication pour quitter son addiction, peut-être qu'elle a pu tomber dans le bon chemin, d'autres qui sont passés par un job de tueur à gage, qui essayent de s'en sortir pour passer à autre chose, et qui ont des démons qui les hantent, d'autres qui ont des amis qui se sont fait tuer. En tout cas, il n'y a pas de tabou, on va dire. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, il y a vraiment une relation de confiance, on va dire. Je pense que tout le monde aurait envie de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de la motivation de chacun. Il y en a qui sont un peu fatalistes, d'autres qui se confortent dans une position, d'autres qui aimeraient beaucoup s'en sortir, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Tu vois, quand tu te fais mettre en centre de désintoxication, il faut de l'argent, en fait, parce que pendant ce temps-là, tu ne travailles pas. C'est souvent la famille qui doit payer, il n'y a pas de soutien de l'État là-dessus, c'est pas quelque chose de gratuit, il faut payer un hébergement, la bouffe et puis la thérapie qu'on te donne. Et puis souvent en fait les jeunes qui y vont, c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé, c'est imposé par la famille parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Donc après ils peuvent essayer de s'y astreindre, mais souvent c'est pas en 3 mois en fait qu'on guérit d'une lourde addiction, c'est plutôt il faut y rester 1 an, 2 ans, et des fois ils ont un peu du mal à s'y astreindre. Et puis quand on revient au quartier, si on retombe dans le même univers, en fait on retrouve les copains qui sont toujours perchés au cristal ou à telle drogue ou machin, et en fait du coup on retombe dedans assez facilement. Après, quand on a mis les mains ou les pieds dans le système du crime organisé, c'est très compliqué de s'en sortir. Il y en a un qui était justement tueur, et du coup, ses patrons sont tous fait tuer, donc on va dire qu'il a réussi à s'en échapper. Mais bon, ce qu'il me dit, c'est que voilà, lui, sa vie, il l'a faite du mauvais côté, et en fait, de repasser du bon côté, c'est... A priori, c'est impossible. Après, c'est des personnes qui ont vu des trucs tellement horribles, en fait, que c'est compliqué de se reconstruire après quelque chose comme ça. Et puis, évidemment, il n'y a pas de... soutien psychologique ou quoi, en fait on est vraiment livré à soi-même. Donc c'est essayer de se reconstruire par soi-même, avec les amis qui restent, en essayant de trier un peu ses amis aussi pour pas replonger, on va dire, dans une spirale infernale quoi. Mais il y en a beaucoup qui luttent tous les jours pour avoir une vie digne, pour travailler dans un travail légal, même si c'est des fois un peu l'économie souterraine, parce qu'en fait un travail pas lié au trafic, ça peut quand même être de vendre des fruits et légumes dans la rue en fait, donc c'est pas un travail déclaré avec une fiche de salaire en fait, c'est gagner son pain quotidien quoi qu'il arrive, comme on peut, et des fois quand on gagne pas son pain quotidien pour bouffer, on est toujours obligé de trouver des combines en fait sans forcément qu'elles soient criminelles. Donc non, il y en a beaucoup qui essayent de s'en sortir, qui s'en sortent, qui ont une vie saine et non... Il ne faut pas croire que du coup dans les quartiers tout le monde est lié au narcotrafic, au contraire, c'est plutôt des gens qui en sont les premières victimes, et une toute petite poignée peuvent y travailler, mais la majorité ont un travail tout à fait noble dans lequel ils s'investissent le maximum, et ils passent souvent leur vie à bosser pour gagner 3 francs 6 sous et ils s'accrochent. Et c'est ça en fait plutôt, c'est la précarité économique qui est compliqué de s'en sortir. Et il y a des enfants d'amis aussi qui ont pu faire des études. Les études peuvent être gratuites. Après, il faut juste être motivé. Et voilà, il y en a qui s'en sortent, quoi. Mais voilà, faut être très, très motivé, quoi. Ça fait plaisir d'y retourner, en fait j'aime bien l'ambiance, j'ai appris aussi à apprivoiser l'ambiance des quartiers, et qui pour moi, malgré le fait de cette violence latente, on va dire, c'est aussi une espèce de bulle d'oxygène pour moi, ça me permet de me remettre à niveau et de relativiser sur ma vie, je revois des gens... En fait, vu de la France, on focalise beaucoup sur justement cette violence. Et quand on est là-bas, en fait, et je veux dire, en France, ça peut faire peur. On a plein qui disent « Non, mais moi, j'irai jamais au Mexique. » Alors qu'en fait, faut pas penser comme ça. Et moi, quand je suis là-bas, avant de partir, souvent, je me pose des questions en me disant « Oulala, il faudra que je fasse attention. » Et quand je suis sur place, en fait, je m'adapte pour pas prendre trop de risques ou pas de risques. Et en fait, on passe outre tout ça. En fait, on adapte son comportement, on fait pas n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on vit mal, en fait. Et du coup, moi, j'aime bien toute cette culture mexicaine, cette joie de vivre, ce positivisme, ce bazar, le son qu'on entend partout, la musique, les gens qui prennent le temps, les gens qui ont le sourire. Et c'est ça, en fait, moi, qui me nourrit. Et malheureusement, il y a des épisodes tragiques, mais c'est pas du tout dépendant du pays en tant que tel et de sa culture, c'est un truc moche qui leur tombe dessus, comme chez nous dans nos quartiers il y a des trucs moches qui nous tombent dessus aussi, finalement c'est un peu la même entreprise tout ça, et ça se développe un peu en France, mais bref, en tout cas voilà, moi c'est vraiment pour les gens que j'y retourne, et pour cette paradoxalement un peu cette douceur de vivre que des fois on ne s'accorde pas trop chez nous quoi. Mais voilà, faut savoir doser, et puis la vie est un risque comme on dit là-bas, donc après c'est normal de prendre des risques. La
Quelques mois avant de rencontrer Jean-Félix, j'avais retrouvé un ami dans un bar de la place Zola. Lui avait opté pour une autre solution que les jeunes de San Luis Potosi. Partir, migrer, comme beaucoup d'autres membres de sa famille avant lui, comme de tout temps l'humanité l'avait fait pour améliorer ses conditions de vie. Depuis qu'il m'avait raconté son histoire, sa traversée du Rio Grande à la nage, j'avais été interpellé et d'une certaine manière attiré par cette différence de parcours de vie fondée sur une inégalité économique. D'un côté, moi, Européen, qui n'ai jamais connu jusqu'ici ni guerre ni réelle galère financière et qui n'ai jamais eu à mettre ma vie en danger pour vivre. De l'autre, un gars du même âge qui a connu la peur et pris le risque de ne jamais revoir son pays et sa famille.
Je trouve qu'il y a plusieurs choses. Les plus importantes, c'est la situation de précarité, comme je dis, la pauvreté. Donc, c'est ça qui m'a fait penser à quitter chez moi. Mais avant de quitter, que ce soit moi qui quitte le pays, et mon père, il l'avait fait déjà avec mes sorties. Donc, de savoir que quelqu'un déjà l'avait fait, je me dis, moi aussi, je peux le faire. Et mon père, il est parti quand il avait déjà la famille, ma mère, ma soeur et moi. Donc, après, plus tard, moi, je me dis, c'est vraiment, si je pars de mon village, de mon village, pour y aller en ville, je vais être loin de ma famille pour gagner un petit peu plus. Alors que si je quitte vraiment pour un pays où on entend et on voit que ça va beaucoup mieux, je peux même apporter quelque chose pour ma famille. Tu vois, ça a commencé comme ça, l'idée dans ma tête. Et puis après, à l'âge de 18 ans, quand tu es adulte, normalement, c'est là où je décidais de quitter la famille. Mais avant de partir, ça a pris des mois pour convaincre ma mère surtout. Tu vois, parce qu'on sait qu'on ne peut jamais retourner. Tu vois, tu peux rester dans les déserts, ou dans la rivière, voilà. Tu peux perdre ta vie. Tu vois. Et les jours qu'ils m'ont dit, c'est bon, t'as que ça en tête, vas-y.
Ça, faut pas douter, hein.
Donc je suis parti. Je suis parti tout seul. Il y a des personnes qu'on appelle guide, chez nous on appelle des coyotes, tu vois. Et on parle avec eux, on se met en accord, combien ça va m'écouter, par où je vais passer, combien de jours, et tout ça. Ça se prépare, ça dépend, une semaine, un mois avant, parce que c'était quand même 3 000 $, 3 500 $, tu vois. Pour quelqu'un qui habite au Mexique, c'est énorme. Et une fois que tu as la somme, ils te disent les étapes. La première étape, c'est tu pars de chez toi à la frontière mexicaine. Et une fois à la frontière, toi, ton tour, parce qu'il y a plusieurs groupes. Voilà. Et puis après, quand c'est ton tour, tu t'approches à la rivière, que c'est le Rio Bravo. Et là, tu commences à te préparer avec ton équipe, ton groupe. On attend la nuit. On a gonflé un bateau gonflable. Et puis après, les gens qui ne savaient pas nager, ils montent dedans. Et les personnes qui savent nager, on s'accroche à un bateau et on nage avec un bras. On va dire que c'est le plus simple à traverser
la rivière.
À ce moment-là, mon ami raconte que la traversée du fleuve à la nage était en fait la partie la plus facile du parcours, car vient ensuite la traversée du désert. Pour cela, le coyote fournit à chaque migrant, en tout et pour tout, 4 litres d'eau, 3 fruits, une boîte de conserve et 2 sandwichs. Ils étaient une dizaine de personnes, marchant dans le désert vers les mêmes objectifs, travailler, aider leur famille, vivre mieux.
Confiance, quoi. Et on est tous pour le même but, de traverser et d'être là-bas, quoi. De travailler. La traversée dans le désert, ça peut durer des jours, mais encore plus difficile quand il y a la migration, qui se rendent compte que tu es là, alors qu'il vient l'hélicoptère ou la migration par terre. Tu vois, donc ça, t'es obligé de rester au milieu des déserts, dans les cactus, dans les cachets, oui. Ou des petites, toujours des évacuations d'eau, tu te mets dedans, toi tant que t'entends plus rien, voilà, tu essayes de ressortir. Des propriétaires, des fermes qui te voient traverser leur terrain, alors ils s'énervent et ils viennent te chasser aussi, tu vois, ouais. Ouais. Donc, tout court. Tout court, ouais. Mais après 5 jours, bah, t'as trop faim, quoi. T'as plus rien à boire, t'as plus rien à manger. Et c'est fatigant, ouais. C'est fatigant. Puis après, ça nous arrivait aussi, ils nous ont lâché les chiens. Là, tu flippes, hein. Tu flippes, ouais. Là, tu sens que des branches te touchent les bras, les jambes, quand tu es en sécurité et que tu te trouves, bah, tu sais qu'ils ne vont plus venir là. Tu te rends compte que les branches qui t'ont touché, bah, c'était des cactus. En fait. Tu as plein de cactus et des épines dans ton corps. Mais avec l'adrénaline, tu ne sens plus, quoi. Tu ne sens plus. Et c'est chaud. Donc voilà, après, tu trouves ta faim, t'as la soif surtout. Tu as la soif, tu n'as même pas l'envie d'y aller au toit, de faire pipi. Pour boire ton pipi, tu vois, tu es désespéré. Mais tu n'as rien de liquide dedans, que tu n'arrives même pas à faire pipi. Et ce qu'on a trouvé, c'était un puits d'eau, mais avec de la mousse verte, comme on s'est dit, quand l'eau il est stanquée depuis des jours, tu vois, des semaines. Donc tu vois ça, tu mets ton bidon d'eau, ton galon, tu mets ton t-shirt et tu commences à le remplir. Et tu le bois, tu vois, et c'est... Bah, c'est tout sent la terre. Mais bon, c'est mieux ça que rien. Ouais, c'est mieux ça quand même. Donc voilà, après plusieurs jours et nuits de marche, bah, tu arrives à une maison où tu te sens en sécurité. On l'appelle la maison des Indiens. Quand tu arrives, bah, il est déjà occupé. Il y a plusieurs groupes qui sont là. Et c'est une autre étape aussi pour appeler à ta famille et leur dire « Je suis arrivé ici et il faut que vous dépositez la somme accordée. » Et c'est petit à petit, en fonction de tout avance, que ta famille elle paye. Gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Une fois que ta famille les guide, les coyotes, ils voient que qu'ils s'est déposité l'argent, bah, ils te bougent de là à une autre maison. Et pour te déplacer, des fois c'est pas dans des voitures, hein. C'est des fourgonnettes ou des, je sais pas comment dire, mais tu peux pas être assis, tu roules et tu colles, et l'autre vient, il colle, et on dirait des sardines, tu vois. Donc tu voyages comme ça, pendant des heures. Donc tu as le temps de t'endormir, de te réveiller, d'avoir la torticolis, de te rendormir. Et tu sais pas où tu vas, mais bon, tu avances. C'est ça l'importance. Jusqu'au moment que tu arrives à... Ben moi, je suis arrivé dans une agence de voyage. C'est écrit, agence de voyage, à l'entrée. Mais on était tous des immigrants, sans papier. Ouais. Et là, il faut encore appeler et dire, là, à ce moment-là, ils vont me déplacer à la ville où il est mon oncle. C'était ma destination, à New York. Une fois que ma famille elle a payé la somme, voilà. Et là, tu es dans des fourgonnettes. Tout est bien parce que t'es, bon, il ne me cache plus. Après, les vitres, ils sont teintés. Mais on est assis, on pouvait s'arrêter sur un McDo, manger un hamburger. Et là, tout est sûr, t'as plus la peur. On est parti de Texas jusqu'à New York, non-stop. Il s'arrêtait dans plusieurs états des États-Unis pour laisser les gens chez eux. Les derniers, c'était moi qui allais à New Jersey. Mais lui, il s'arrêtait à New York. Alors on était que tous les deux à la fin dans la fourgonnette. Et c'est les chauffeurs qui avaient l'adresse de mon oncle. Après, il ne se donnait pas les chauffeurs et il disait, je ne peux pas venir chez toi. Il faut que tu viennes dans un point X. Si jamais, voilà. Parce qu'il fallait payer aussi à ce moment-là. Donc il faut que tu te déplaces. Voilà. Et ils l'ont fait comme ça, sur la rue, il m'a déposé, et puis après mon oncle il s'approchait pour payer, c'est bon. Et là c'est fini le trajet. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted. That you wear so well that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Après, si j'aurais été dans un pays bien développé avec tous les aides qu'on trouve ici, je ne vois pas pourquoi je vais le faire, tu vois. Pourquoi je vais chercher ces risques, tu vois. Après, t'as rien, tout le temps t'as rien, t'as rien, quoi. Tu restes dans la même situation. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, il y a tellement de gens qui le font chez moi. Donc, c'est bien normal, ouais. Je crois qu'à l'époque, je pensais plus à ma mère. En tant que jeune homme, ouais, bah, j'avais pas de famille, donc je pensais à ma mère, la souffrance. Mais la peur, bah, après, c'est un pays chaud. Hein. C'est un pays chaud d'où je viens. Donc, tu apprends peut-être, je sais pas. Tu apprends à être comme ça, avec la peur, avec la... Mais franchement, ça c'est une peur que je n'ai jamais eue chez moi. C'est différent, je sais pas. C'est différent, c'est... Bah, la peur de la mort, je sais pas.
L'émission se termine ici. Je remercie chaudement les deux témoins de cette émission mexicaine qui me tenait tant à cœur, émission qui rappelle l'intérêt de s'ouvrir au vécu de ses proches, de ses voisins, au vécu des autres, s'écouter pour pouvoir se comprendre et s'accepter. Selon la Banque mondiale, 216 millions de personnes seront amenées à migrer pour raisons climatiques d'ici 2050. Serons-nous alors capables de nous écouter ? Jean-Félix Fayol a publié un livre généreux et coloré de photos intitulé Hecho en Barrio en 2023 à partir de son travail au Mexique. Quant à cette émission, elle est réécoutable sur le site de Jet FM à la page des anthropologues du vivant. Don't call me green, no, you fucking beater. Stay on the side of the goddamn river, don't call me.